France Inter.
Aujourd'hui, dans la tête de nos ancêtres, raconté par
Antoine Balzo, paléo-anthropologue au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Le soleil est brûlant en cette journée du 19 juillet 2001 dans le désert du Djourab au Tchad où la température dépasse régulièrement les 50 degrés. C'est dans cette fournaise qu'une équipe de scientifiques est en train de fouiller le grès à la recherche de fossiles, parmi eux Aounta Djimdou Malbaye, un jeune diplômé en sciences naturelles tchadien qui se démarque déjà en raison d'une acuité visuelle exceptionnelle lui permettant de repérer des vestiges que d'autres auraient sans doute ignorés. Aounta, ce jour-là, s'aventure seul vers le sud du périmètre assigné par l'équipe de chercheurs. C'est là, dans le silence absolu du désert, qu'il repère une anomalie dans le sable, une boule noire, étrangement lisse et dure, incrustée dans un amas de cailloux. À mesure qu'il dégage l'objet, deux rangées de dents apparaissent, révélant la nature de sa trouvaille, un crâne humain. Le jeune homme ramasse le fossile, le tourne et le retourne, son cœur bat la chamade, comme celui de Michel Brunet, le paléo-anthropologue qui dirige la mission. Cela fait 30 ans que le scientifique français cherche les traces des premiers hominidés. Et là, en plein désert tchadien, où personne n'a jamais entrepris de fouille, un crâne est là, posé à même le sable, balayé par le vent. La forte inclinaison arrière du crâne, la localisation du trou occipital, la forme des orbites et les dents montrent qu'il s'agit d'un spécimen appartenant à la famille des hominidés et non à celle des gorilles et des chimpanzés. Et les premières analyses vont confirmer l'extraordinaire. Il s'agit d'un crâne humain datant de plus de 7 millions d'années, celui d'un petit homme à l'aspect primitif qui devait mesurer un peu plus d'un mètre et peser dans les 35 kilos. Le crâne est nommé Toumaï, qui signifie « espoir de vie » en langue gorane, et il devient rapidement une célébrité mondiale, mais aussi un symbole de fierté nationale pour Aounta et tous les Tchadiens, en faisant de leur pays la terre des premiers pas de l'humanité. Ce crâne de Toumaï a bouleversé les connaissances en faisant reculer dans le temps les racines des humains, mais aussi celles de la divergence entre les chimpanzés et les humains. Et si un tel fossile offrait aujourd'hui la possibilité d'étudier directement le cerveau des humains préhistoriques grâce aux traces laissées dans leur boîte crânienne. Eh bien, c'est cette aventure que nous allons vous raconter.
Voici, pour la première fois, le cerveau de l'homme de Cro-Magnon. Ce cerveau représente une prouesse en paléo-anthropologie, car si nos ancêtres et les différentes espèces humaines qui ont peuplé la Terre nous ont laissé de nombreuses traces, à l'intérieur de la tête de ces hommes préhistoriques, le cerveau a depuis longtemps disparu.
On retrouve encore des crânes d'hommes de Néandertal. Par contre, on ne peut pas avoir le cerveau de Néandertal, ça se fossilise pas, on n'en a pas.
Alors comment recréer le cerveau de ces hommes préhistoriques quand l'action du temps les a depuis longtemps effacés ?
La voix de Mathieu Santin de l'Institut du Cerveau à Paris. Bonjour Antoine Balzo.
Bonjour.
Votre grande passion, ce sont les crânes.
Oui, parmi d'autres, mais en tant que paléo-anthropologue, j'adore ça. Oui.
Qu'est-ce que vous aimez étudier dans ces crânes ? Qu'est-ce que ça vous raconte ?
J'essaye de faire que ça nous raconte un maximum de choses. Un crâne ou un fragment, c'est un fossile humain. Et l'idée, c'est d'essayer de voir le plus de données possible pour mieux comprendre l'évolution humaine. Et il se trouve qu'à l'intérieur du crâne, évidemment, il y a quelque chose qui s'y cachait, qu'on ne retrouve plus pour les fossiles, c'est le cerveau. Ouais. Et étudier le cerveau, c'est un sujet qui m'intéresse depuis que j'ai commencé à faire de la paléontologie et où je me disais qu'il y avait encore quelques petites étapes méthodologiques à passer, quelques petites avancées pour essayer d'améliorer notre capacité à étudier la forme du cerveau.
Mais comment faites-vous, puisque c'est un tissu mou et que précisément il n'arrive pas à dépasser les stades de quelques jours, comment on fait pour essayer de le recréer, comme chez Toumaï, par exemple, 7 millions d'années, on pourrait imaginer recréer son cerveau à Toumaï ?
Tout à fait. Et en fait, il y a plusieurs étapes. Ça fait 150 ans qu'on trouve des fossiles et qu'on étudie l'intérieur. On voit bien qu'à l'intérieur du crâne, il y a des empreintes qui sont visibles et qui sont en lien avec le cerveau. Parce que pendant la croissance de chaque individu, les deux sont imbriqués, se développent l'un contre l'autre. Et donc, en quelque sorte, il y a une vraie interaction entre le cerveau et le crâne. Des empreintes vont être visibles. Le problème, c'est que jusque-là, on n'avait pas de clé de lecture de ces empreintes.
Oui.
On essayait d'interpréter ce qu'on voyait et de relier directement au sillon du cerveau qu'on connaît bien par ailleurs, mais sans avoir aucune certitude absolue qu'on regardait exactement au bon endroit et que c'était exactement les mêmes choses.
Donc c'est cette empreinte sur la boîte crânienne que vous étudiez aujourd'hui, que vous essayez vraiment d'analyser pour raconter une histoire d'évolution des humains.
C'est le seul matériel dont on dispose, ce moulage interne du crâne qu'on appelle endocrâne, qui reflète cette forme cérébrale. On le fait depuis les premiers paléontologues qui étudiaient des fossiles humains, le premier néandertalien, le premier rectus. Il y a eu des descriptions et l'idée a été toujours de coller sur la forme du cerveau à partir d'extrapolations sur le cerveau actuel et par comparaison. Là, on a voulu aller au-delà de ça, se donner les moyens de... au lieu de supposer que le lien était évident et qu'on le connaissait, le tester et essayer de recréer ce lien entre l'endocrâne et le cerveau.
Et là, vous avez eu des surprises par rapport à toutes les interprétations qu'on avait pu faire jusqu'à maintenant.
Complètement. Alors, ça a été un projet sur le long terme. Ça fait 4 ans qu'on travaille là-dessus.
Ça s'appelle le paléo-brain.
Exactement. Et ça a impliqué plein de gens de plein de domaines différents. C'est pour ça qu'on a entendu Mathieu Santin juste avant.
De l'Institut du cerveau, oui.
Exactement, qui est spécialiste dans l'imagerie. Et il a contribué largement au projet, lui et toute l'équipe qui est là-bas, en imageant des volontaires qui ont bien voulu participer à ce projet scientifique. Parce que le point de départ pour essayer de réétudier le fossile des humains du passé...
C'est partir des vivants.
Exactement. Ouais. C'était ça notre idée, essayer d'avoir une réelle clé de lecture du lien endocrâne-cerveau. Et pour faire ça, il n'y a qu'un moyen, avoir des gens vivants qui veulent bien se prêter au jeu.
Donc c'est pour faire de la comparaison aussi ? Pouvoir étudier la façon dont les cerveaux ont à la fois évolué et ce qu'ils nous racontent entre un humain moderne, un homo sapiens d'aujourd'hui et puis nos ancêtres.
C'est même au-delà de ça. En fait, on se contentait d'extrapoler à partir d'une idée de cerveau moyen ou d'un atlas ce qu'on observait sur les boîtes crâniennes. Là, ce qu'on a voulu faire, c'est quantifier, caractériser sur 75 volontaires avec des séquences d'imagerie différentes par IRM qui permettaient à la fois d'avoir le cerveau et la boîte crânienne, et plein d'autres choses qu'on va utiliser par la suite. Mais surtout, l'idée, c'était d'avoir le cerveau et l'endocrâne de chacun et de voir où se positionne chaque sillon du cerveau et quelle marque il a éventuellement laissé sur la boîte crânienne. Ça, 75 fois, grosse base de données, comparaison, analyse précise pour avoir une meilleure vision de ce réel lien entre les deux.
Ouais, donc, c'est une espèce de cartographie, au fond, que vous mettez en place.
Une sorte de cartographie, une pierre de Rosette, une tentative d'avoir une réelle clé de lecture entre les deux. Et c'était fondamental parce que au tout début du projet, on a fait un test. On a envoyé à l'aveugle à 14 spécialistes des endocrânes, dont moi, des gens qui travaillent sur la forme du cerveau à partir des fossiles, le premier endocrâne qu'on avait obtenu avec notre premier volontaire en disant « Allez-y, marquez ce que vous voyez d'habitude et ce que vous décrivez d'habitude. » On l'a tous fait. On a vérifié, évidemment, on avait la correction. Alors, personne n'avait la vraie version du cerveau, mais nous, on l'avait. Donc, on a pu après tester, comparer, regarder. Et on s'est rendu compte que sur ces 14 spécialistes parmi les plus grands du monde sur ce domaine-là, eh bien, globalement, on avait tous 50% d'erreurs.
Mais sur quoi vous aviez des erreurs ? Sur la localisation d'une zone précise du cerveau, par exemple ?
Sur l'endroit où on positionnait les sillons, par exemple le sillon central, qui est un sillon très important, qui sépare les lobes frontaux et les lobes pariétaux, et en avant et en arrière duquel, il y a des zones fonctionnelles extrêmement importantes, fondamentales pour le fonctionnement du corps humain et tout ce que nous sommes capables de faire. Eh bien, pour ce sillon-là, je pense que sur le premier individu, 13 des 14 grands spécialistes s'étaient trompés, avaient pris celui d'avant plutôt que le réel sillon central.
Donc ça veut dire qu'on se trompe complètement si on veut interpréter des fonctions, par exemple d'un ancêtre préhistorique et qu'on regarde son endocrâne. Jusqu'à maintenant, en fait, on était un peu à côté de la plaque.
Ça veut dire que jusque-là, les descriptions anatomiques qu'on faisait étaient basées sur des idées moyennes, des projections que l'on faisait, qui avaient des biais importants, et que là, on va réussir à corriger. Le lien avec la fonction, c'est encore une étape ultérieure qui est extrêmement complexe.
Oui, parce que là, c'est aussi le but, c'est de pouvoir imaginer précisément les fonctions de nos ancêtres.
C'est le but, c'est presque le rêve,
c'est
la seconde perspective.
Ouais.
En fait, là, ce premier projet, ces 4 années, La visée principale, c'était d'être capable de bien comprendre le lien entre l'endocrane et le cerveau, de l'appliquer aux fossiles et sur quelques spécimens clés, faire revivre un cerveau, par exemple de néandertalien.
Vous disiez qu'il y a une empreinte donc, du cerveau sur la boîte crânienne. C'est le cas pour tous les individus, c'est-à-dire que tous les cerveaux laissent une empreinte. Elles sont de plus ou moins bonne qualité, justement, selon les personnes. Comment ça se passe ?
Alors, si on parle de tous les cerveaux et tous les individus chez les humains, oui, globalement, mais en fait, sur toutes les espèces qui ont à la fois un crâne et un cerveau, on voit un lien avec des espèces où on le voit très très bien. Par exemple, les carnivores, c'est extraordinaire. Le cerveau et le crâne sont tellement bien imbriqués l'un dans l'autre que les sillons, on les voit directement. Chez les primates, c'est moins clair. Chez les humains, c'est pas terrible. Malheureusement, j'ai pas choisi le bon domaine pour étudier les fossiles humains.
Pourquoi par rapport à nos autres cousins primates, c'est moins clair chez les humains ?
Il y a plusieurs aspects qui rentrent en compte. Le rythme de croissance chez nous, qui est plus long, prolongé par rapport aux autres, même si 90% de la croissance du cerveau se fait dans les 2-3 premières années de la croissance.
Ouais.
Et puis la taille d'ensemble. Le cerveau, même s'il a beaucoup d'imbrications, de formes, de sillons, etc., vu que le volume est très grand, le contact est assez réduit entre les deux parce qu'on a des grosses têtes.
Donc ça flotte un peu entre la boîte crânienne et le cerveau ?
Ça flotte, ça ne se marque pas beaucoup.
Ouais.
Et puis c'est vrai que notre boîte crânienne, elle protège surtout le cerveau. On a un cerveau surdimensionné par rapport à plein d'autres groupes animaux, où chez les autres, le cerveau est plus imbriqué dans tout le reste. Nous, c'est très grand, il y a moins de marques, il faut essayer de faire avec.
Eh bien, nous allons voir quand même ce que tout ça peut nous raconter, Antoine Balzo, et pas seulement de nous, Homo sapiens, mais aussi, par exemple, de Néandertaliens. Et vous êtes notre invité, vous pourrez répondre au message qui arrive sur franceinter.fr pour aborder avec vous cette grande histoire de l'évolution humaine.
Mathieu Vidard, La Terre au carré.
Our evolution...
Notre évolution a eu lieu en même temps que celle d'autres espèces dominidées. Jamais auparavant, nous n'avions réfléchi à l'évolution humaine de cette façon. Nous pensions que les premiers humains étaient invincibles, que nous avions évolué après avoir poussé dehors toutes les autres espèces. Nous pensions que l'histoire de notre évolution était simple, une évolution linéaire avec un cerveau et des comportements de plus en plus développés.
La voix du paléoanthropologue John Hawkes dans un documentaire de France 24 en 2017 sur les origines de l'homme, Antoine Balzo. Vous qui publiez Dans la tête de nos ancêtres, c'est aux éditions Belin, autour de vos travaux sur l'étude des cerveaux des humains préhistoriques. Un travail qui cherche, vous l'expliquiez, à montrer comment le cerveau a évolué depuis quoi d'ailleurs ? Depuis 7 millions d'années ? Depuis Toumaï ou pas ? Puisque c'est le fossile le plus ancien dont on dispose.
Il fallait bien un point de départ.
Ouais.
L'idée, c'est de discuter de l'évolution humaine et c'est vrai que Toumaï, c'est le premier chaînon d'un individu avec une adaptation à la bipédie.
Ouais.
Et ça se voit même sur la forme de son cerveau.
C'est vrai, qu'est-ce qu'elle a de spécial, donc, la forme de son cerveau ?
Elle diffère nettement de ce qu'on voit chez les grands singes ou autres primates actuels qui se déplacent ou qui ont un corps adapté au fait de se déplacer dans les arbres ou à quatre pattes. La colonne vertébrale arrive vers l'arrière du crâne, le cou est orienté vers l'arrière, alors que chez les humains d'aujourd'hui, le cou est en dessous de la boîte crânienne. Bah, chez Toumaï, la forme du crâne, la forme du cerveau, indiscutablement, correspondent à une morphologie adaptée au fait d'atterriger, d'être droit.
Et si je vous apporte un endocrâne de chimpanzé et un endocrâne d'Homo sapiens, vous allez tout de suite voir la différence et me dire que là, on a un cousin primate et nous-mêmes ou...
Ah oui, il y a une différence déjà de taille, du simple au triple, et puis de forme évidente. Et ça fait partie aussi du challenge quand on étudie les spécimens fossiles. Arriver à voir des différences en fonction des espèces, pas uniquement liées à la taille, et c'est ce qui est d'ailleurs assez remarquable, on voit des choses.
Mais là, je ne vous parle pas de la taille du cerveau, je vous parle juste, si je vous apporte un petit bout d'endocrâne, justement, parce qu'évidemment, la taille, c'est plus simple pour définir l'espèce, mais s'il y a juste un petit bout avec l'empreinte, justement, du cerveau, est-ce que là, vous êtes capable de dire, tiens, qu'il s'agit d'un autre primate que nous ?
Ah, un autre primate, oui, à moins de prendre un morceau complètement lisse, où en effet, il n'y aurait aucune information, la forme générale est assez parlante.
Mmh.
Donc oui. On pourrait voir aisément des choses, et sur des petites zones de cerveau d'hommes préhistoriques, clairement oui.
Ce que nous disait John Hawkes là, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est que le cerveau n'évolue pas en taille de façon linéaire, c'est ça. Il n'y a pas un fil qui se déploie depuis justement Touma, il y a 7 millions d'années, avec un cerveau qui grossit, et des êtres qui deviennent de plus en plus intelligents.
Alors c'est une histoire qui est plus complexe que ça, dans un sens, dans l'autre en fait.
Ouais.
Globalement, il y a eu une tendance à l'augmentation de la taille de la boîte crânienne tout au cours de l'histoire de l'humanité, mais avec des exceptions et des variations entre les espèces. C'est ça qui est fondamental. Il ne faut pas imaginer que c'est rectiligne et qu'il y a une relation de causalité. L'augmentation de taille s'observe aussi avec des augmentations de stature des humains. À partir d'Homo erectus, les humains sont plus grands, nous ressemblent plus en morphologie, leurs boîtes crâniennes sont plus grandes.
Est-ce que, par exemple, d'autres spécimens qui ont des cerveaux plus gros qu'Homo sapiens ?
Tout à fait.
Ouais.
Déjà, au sein d'Homo sapiens, il y a une particularité, c'est que dans notre espèce, la taille moyenne de la boîte crânienne a diminué depuis la préhistoire. Depuis 30 ou 40 000 ans, on a un cerveau qui est 10 à 15 % plus petit que les humains du passé.
Comment on l'explique ?
En partie par une différence de stature. Ouais. Ils étaient plus grands, plus costauds que nous. C'était une diversité humaine qui n'existe plus aujourd'hui, avec des petites différences un petit peu partout. Donc cette différence de taille de l'ensemble explique un peu la différence de taille du cerveau. Et puis il y a sûrement plein d'autres facteurs, autres complexes, qu'on ne maîtrise pas trop. Et puis parmi le registre fossile, les Néandertaliens en moyenne avaient un cerveau encore plus grand. Et en Chine, depuis quelque temps, on trouve certains fossiles avec des volumes endocrâniens encore plus grands. Les fossiles pour lesquels on a les records de taille de boîte crânienne sont des fossiles chinois attribués à aucune espèce pour le moment.
Oui, donc c'est vraiment, il faut y être, aller très précautionneusement sur les interprétations et les conclusions qu'on veut apporter, parce qu'effectivement, l'évolution n'est pas linéaire. Hein, c'est ce qu'on dit à chaque fois, mais...
Oui, et puis le lien un peu simpliste qu'on imagine entre taille du cerveau et intelligence, même si à l'échelle de 7 millions d'années, il y a un lien quand même certains avec une apparition de nouvelles compétences, il y a aussi des différences. Par exemple, le feu a été utilisé par Homo erectus, Néandertal, Sapiens, trois espèces avec des volumes cérébraux très différents. Ce qui montre bien que la structure est très importante aussi dans ses fonctionnements et dans la manière dont on est capable de faire des choses.
Antoine Balzo, dans votre travail, il y a tout un pan qui concerne la latéralité des humains. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de l'étudier et qu'est-ce que ça veut dire la latéralité ?
C'est intéressant parce que le fonctionnement du cerveau, nous le disions, est extrêmement complexe. Néanmoins, il y a des choses qu'on observe, une asymétrie générale du cerveau chez tous les humains actuels. 90% des humains ont un cerveau asymétrique dans le même sens, avec la partie en avant droite projetée par rapport à celle du côté gauche, et la partie arrière gauche plus en arrière, les lobes occipitaux plus étirés vers l'arrière.
Ça ne se voit pas à l'œil nu, ça ?
Dans les faits, si on regardait la boîte crânienne, il y a une petite asymétrie aussi en lien de la boîte crânienne, mais c'est compensé. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, cette compensation entre les deux. Mais globalement, le cerveau est asymétrique dans ce sens-là. 90% des humains d'aujourd'hui ont cette asymétrie-là, qui est liée la plupart du temps, presque à 100%, avec le fait d'être droitier. Et chez les gauchers, c'est asymétrique un petit peu dans l'autre sens. Donc il y a un vrai lien. La question derrière, c'est d'aller quantifier ce lien, de mieux comprendre ce lien, et ça fait partie des objectifs de ce que nous allons essayer de faire maintenant.
Et alors les droitiers, il y en avait donc beaucoup. Est-ce que toutes les espèces étaient plutôt droitières que gauchères ou pas ?
Vaste sujet. La difficulté, dès qu'on compare des informations droite-gauche sur des fossiles, c'est qu'il faut un échantillon assez grand. Si on n'a que deux individus et qu'on a un, on ne peut pas le faire. Pour les Néandertaliens, a priori, par un certain nombre d'indices, on a des données qui semblent conforter le fait qu'ils étaient droitiers, comme chez nous, avec un cerveau probablement asymétrique comme le nôtre. Et ça, on va essayer d'aller plus loin sur ce sujet-là.
Antoine Balzo, on va passer aux questions des auditeurs et des auditrices. Thierry nous demande, est-ce que notre cerveau contient plus de substances blanches que celui de nos ancêtres ?
Oh.
Est-ce que vous êtes au courant de ça ou pas, Antoine Balzo ?
terrible question et j'en ai absolument aucune idée.
Et vous
simplement,
avez le droit.
Bah oui, parce que ce qu'on arrive à observer, nous, c'est la surface externe de la boîte crânienne, donc pas ce qui se cache à l'intérieur. Et faire des extrapolations sur des espèces différentes et sur les proportions des tissus à l'intérieur, pour le moment, c'est impossible et ça le restera peut-être toujours.
Margot demande, est-ce que l'Homo sapiens est le seul à parler, puisqu'on parlait des airs du langage tout à l'heure, Antoine Balzo. Est-ce qu'il y avait un langage articulé chez Néandertal, par
voilà,
exemple ?
Il y a la difficulté de la définition du langage et du fait de parler. On n'a pas de traces biologiques permettant d'argumenter ça sur les humains préhistoriques. Néanmoins, quand on regarde ce qu'ils étaient capables de faire et la complexité des choses, par exemple, un biface néandertalien, c'est tellement compliqué à faire qu'on peut difficilement envisager qu'ils le faisaient juste par imitation. Il fallait communiquer et apprendre. Et de toute façon, ce sont des espèces Néandertal et Homo sapiens tellement proches qu'il n'y a pas trop de raison qu'il y ait eu des différences aussi notables que ça. Ils devaient communiquer très très bien.
Mais ça, ce sera la suite de vos travaux, justement, d'essayer de mieux éclairer les fonctions ou pas ?
Il se trouve que cette idée de latéralité manuelle est aussi liée au langage. Les asymétries du cerveau liées au langage sont en partie les mêmes que celles qui expliquent le fait d'être droitier ou gaucher. C'est pour ça que l'étudier sur nos volontaires dans les années qui viennent pour mieux comprendre le lien avec l'anatomie du cerveau et l'appliquer sur les fossiles, ça permettra d'éclairer de manière un petit peu nouvelle les comportements des humains préhistoriques.
Véronique demande, qu'est-ce qui nous permet de dire qu'un néandertalien est aussi intelligent que nous ?
Pas grand-chose. Alors, c'est difficile toujours, mais avec un peu d'humilité aussi, on peut observer que ce qu'ils étaient capables de faire à l'époque, utiliser des colorants, fabriquer des parures, parfois enterrer leurs morts, ce qui implique quand même d'avoir une conception de, l'au-delà, laisse penser qu'ils avaient des modes de pensée complexes et donc des capacités du même ordre que les nôtres.
Et puis enfin, Jean demande, depuis quand fabrique-t-on des outils, Antoine Balzo ?
Un peu plus de 3 millions d'années, justement, ça
donc
fait
c'est
partie...
Pas, c'est pas le genre homo, en fait.
Exactement. Homo habilis avait été créé avec cette idée-là que l'homme vrai, c'était Homo, et on l'avait appelé Homo habilis parce qu'il y avait des outils associés avec lui. Il se trouve que dans le même site, il y avait aussi des restes de paranthropes, des australopithèques un peu particuliers qui étaient associés. Et depuis, de toute façon, on a trouvé des outils bien plus vieux, 3,3 millions d'années. Donc, l'apparition de l'outillage, c'est à un moment où les cerveaux sont encore tout petits et tout étranges. C'est merveilleux.
Et tout ça, ça rebat les cartes de cette belle histoire humaine.
Exactement.
Et c'est tant mieux. Merci beaucoup Antoine Balzo. Dans la tête de nos ancêtres, illustré par Tiphaine Deray, cet ouvrage paraît aux éditions Belin. Merci d'être venu nous en parler au micro de la Terre au Carré. Ce dossier était préparé par Joachim Taïeb.